voici le journal d'Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. L'actualité ce matin, c'est notamment cet accord avantageux pour les intermittents du spectacle. Les partenaires sociaux semblent avoir trouvé une issue après des heures de négociations au ministère du Travail à Paris. Les modalités de ce texte dans un instant avec David Ravier. Une quatrième journée nationale de contestation sociale. La réforme du code du travail doit être retirée. C'est en tout cas la revendication toujours d'actualité de plusieurs syndicats et mouvements de jeunesse, nous dira Bastien de Seninck. Enfin, la fronde des magistrats et des élus des grandes villes polonaises. Ils condamnent la remise en cause par le pouvoir politique du tribunal constitutionnel. Nous verrons cela avec Bruno Cadenne. Une seconde journée de négociation marathon au ministère du Travail vient donc de déboucher, semble-t-il, sur un accord plutôt favorable aux intermittents du spectacle. Il y a quelques heures, les délégations sont ainsi parvenues à s'entendre sur un texte dont l'objectif, David Ravier, est de garantir le régime spécifique d'indemnisation chômage des professionnels de la culture et de la communication.
Quasiment toutes les mesures défendues par les syndicats ont été approuvées. À partir de l'année prochaine, les intermittents vont pouvoir mieux cotiser pour leur retraite, puisque l'abattement de 20 à 25% dont ils bénéficiaient sera supprimé. Cet accord signe également le retour du calcul du temps de travail sur un an et non plus sur 10 mois comme c'est le cas actuellement. Le but, c'est de permettre aux techniciens et aux artistes d'être mieux indemnisés et d'avoir plus de chances d'atteindre le seuil de 507 heures annuelles pour toucher leurs allocations chômage. Pour réussir à trouver un arrangement raisonnable, la lettre de cadrage du MEDEF n'a pas été suivie. À la place, les syndicats et les professionnels du spectacle ont préféré faire leurs propres estimations. Les cotisations patronales ont été revues à la hausse et les allocations des intermittents du spectacle n'ont quasiment pas changé. Du coup, l'accord n'est pas encore chiffré, il a été transmis à l'État au comité d'experts qui va déterminer le montant des économies réalisées. Mais même si un accord a été trouvé, rien n'est définitif puisque le MEDEF va participer aux négociations interprofessionnelles qui vont bientôt commencer. C'est pendant cette nouvelle réunion que les intermittents sauront si cet accord est pris en compte ou non, sachant que la lettre de cadrage de 185 millions d'euros d'économies proposée par le MEDEF le mois dernier n'a pas été respectée, elle pourrait être rapidement écartée des négociations. Dans tous les cas, tant qu'un accord final n'a pas été signé, les intermittents veulent continuer d'occuper des salles de spectacle dans plusieurs villes de France pour maintenir la pression. De son côté, la CGT Spectacle appelle toujours à faire une grève illimitée à partir d'aujourd'hui.
Et effectivement, les occupations de théâtre se poursuivent ce matin à Paris, à l'Odéon et à la Comédie Française, mais aussi à Strasbourg, à Lille, à Caen, à Bordeaux ou encore à Montpellier. David Ravier l'évoquait également, le compromis sur le régime des intermittents sera examiné par les partenaires sociaux qui négocient cet après-midi un accord global sur l'UNEDIC. Pas sûr, Laurent Kramer, que les discussions se déroulent d'ailleurs sans accroc, compte tenu notamment de la feuille de route actuelle du MEDEF.
Le patronat arrive aujourd'hui avec des propositions jugées irréalistes et délibérément provocatrices. La CFDT ne décolère pas, la CGT, Force ouvrière, estime que cette négociation UNEDIC est en réalité otage d'un jeu politique entre le patronat et le gouvernement. Comment accepter de moduler la durée des droits au chômage en fonction du nombre de demandeurs d'emploi, comme le propose le patronat, ou encore de toucher aux 3 années d'allocation accordées aux plus de 50 ans pour déplacer le curseur à 59 ans. Des sujets mis sur la table par le patronat mais qui ne seront pas débattus, assurent les syndicats. L'essentiel est ailleurs et le MEDEF oublie d'en parler. Comment limiter le recours systématique aux contrats de plus en plus courts qui plombent aujourd'hui les comptes de l'UNEDIC et généralisent la précarité? Le gouvernement propose une surtaxation des CDD inscrite dans la loi El Khomri, la CFDT et Force ouvrière, un système de bonus-malus sur les charges patronales pour rendre moins cher un CDI qu'un CDD. Mais le patronat annonce qu'il claquera la porte des négociations UNEDIC si les CDD sont sur taxer.
Cette mesure qui mécontente le patronat ne satisfait pas à elle seule les syndicats et les organisations de jeunesse qui appellent aujourd'hui à des manifestations partout en France. Il s'agit d'une quatrième journée de mobilisation nationale pour réclamer le retrait pur et simple de la réforme du code du travail portée par Myriam El Khomri et réécrite, on le sait, par Matignon et l'Élysée. La philosophie du texte est encore beaucoup trop libérale, Bastien de Seninck, pour celles et ceux qui défileront donc tout à l'heure à Paris et en région.
Le gouvernement a beau avoir fait quelques concessions sur le plafonnement des indemnités prud'homales ou avec des mesures à destination des jeunes, on est encore loin du compte pour Christophe Grolier de Force ouvrière.
Ce qui nous inquiète le plus, c'est ce fameux principe qu'on appelle la hiérarchie des normes, c'est-à-dire que demain, l'accord d'entreprise pourrait primer sur l'accord de branche ou l'accord interprofessionnel qui, à terme, ne pourrait pas exister. On regrette que le gouvernement et même le président de la République n'aient pas eu la capacité de comprendre que la meilleure solution était de retirer ce projet.
Pour cette quatrième journée d'action en moins de deux mois, la question de la participation sera centrale, mais pour la secrétaire générale de la FSU, Bernadette Groison, il faut aussi regarder ailleurs.
Il y a une opinion qui reste défavorable à ce sujet et qu'il y a beaucoup de mécontentement dans la société autour des questions du travail. Ce que nous souhaiterions et ce que le gouvernement devrait faire, c'est de regarder ce qui se passe, mais de se dire qu'il y a un sujet travail qui est maltraité. Il faut l'entendre et il faut en discuter.
Et c'est aussi pour cela que la CFE-CGC n'appelle pas à manifester, mais à faire pression sur le débat parlementaire. Carole Couvert, sa secrétaire générale.
Les députés ont leur mot à apporter. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a les élections législatives en 2017. Et donc, pour que le vote soit utile, la CFE-CGC rendra public les amendements qui auront été déposés par chaque député, mais également le vote des députés.
Un débat qui doit s'ouvrir mardi prochain à l'Assemblée nationale et qui fera à nouveau l'objet d'une journée de mobilisation. La question d'une grève reconductible d'ici là doit d'ailleurs être discutée aujourd'hui, sans oublier, entre les deux, les traditionnels défilés du 1er mai.
Dossier signé Bastien Dessenin. Qu'une cellule pour lui tout seul à Fleury-Mérogis avec des caméras de surveillance. C'est un dispositif hors norme pour un prisonnier hors norme. Salah Abdeslam a été mis en examen hier par le juge d'instruction qui l'a entendu dans la foulée de son transfert de Belgique en France. Interrogé par Antoine Marette, le président de l'association 13 novembre Fraternité et Vérité, espère que le seul survivant des commandos djihadistes va vraiment collaborer avec la justice. Georges Saline a perdu sa fille dans l'attaque du Bataclan. La parole de Salah Abdeslam est selon lui essentielle pour éviter qu'un autre drame de ce genre se reproduise.
Il a indiqué qu'il allait parler, il est probable qu'il va parler dans la mesure où il cherche à indiquer que son rôle a été mineur et celui d'un facilitateur et pas celui d'un meurtrier. Donc s'il veut vendre ce discours, il est obligé de parler. Alors ça ne veut pas dire que c'est la vérité bien entendu, mais s'il parle, ses propos peuvent être recoupés par les enquêteurs avec ceux des autres personnes détenues qui sont mises en examen en France ou inculpées en Belgique. Et donc, c'est leur travail de démêler le vrai du faux dans ses propos. C'est toujours plus productif que quelqu'un qui est mutique et qui ne veut rien dire. En tout cas, on peut espérer qu'on aille aussi loin que possible. C'est très important d'abord pour trouver les coupables, mais c'est surtout très important pour éviter que ça se reproduise. C'est-à-dire, il faut démanteler ces réseaux. Et puis, il faut comprendre aussi comment tout ça s'est constitué pour essayer de faire de la prévention. Il paraît essentiel de bien comprendre ce qui a pu se passer, notamment pour que ces personnes aient pu circuler pendant des mois sans qu'on les dénonce, parce qu'il faut éduquer, travailler avec les jeunes sur la citoyenneté, non pas tant dans l'espoir d'éviter la radicalisation de quelques-uns, mais surtout d'éviter la tolérance vis-à-vis de ces personnes. Chez les ados, on admire les Robins des Bois, mais ce ne sont pas des Robins des Bois, ce sont des meurtriers sanguinaires. Donc ça, il faut le dire et apprendre qu'il ne faut pas tolérer ces comportements.
À suivre à 7h12 sur France Culture, le portrait de l'avocat français de Salah Abdeslam, maître Franck Berton, est un ténor du barreau de Lille, nous dira Marie-Pierre Véraud. En Cisjordanie, les élections étudiantes organisées hier à l'université de Bir Zeit ont finalement été remportées par le Hamas. Le mouvement consolide ainsi ses positions au détriment du Fatah qui soutient l'autorité palestinienne dont le siège est à Ramallah. Faute de scrutin national, ces élections indiquent la bonne implantation des islamistes dans les territoires occupés. À Ramallah, c'est un reportage de Nicolas Repère, le correspondant sur place de RFI et France Culture.
Dès l'annonce des résultats, les partisans du Hamas sortent en voiture dans les rues de Bir Zeit. Pour la seconde année consécutive, la liste affiliée au parti islamiste palestinien l'emporte. Une nouvelle dont se réjouit Mohamed Saleh, le coordinateur du mouvement.
Les étudiants nous ont renouvelé leur confiance une deuxième fois. Cela montre qu'ils adhèrent à notre projet. Nous allons essayer de ne pas les décevoir.
Étudiant en troisième année de français, Dia Amouri voit dans ce vote un apprentissage de la démocratie alors qu'aucune élection nationale n'a eu lieu depuis 2006.
Le climat de la démocratie, c'est ce qui me plaît. Oui, oui, ils apprennent petit à petit parce que les étudiants de première année ne savent pas comment voter pour ça. Oui, c'est très très bien.
Pour Mohamed Masri, lui aussi étudiant, le vote à l'université a une valeur nationale.
L'université de Bir Zeit sur les terrains palestiniens, elle occupe une place vraiment très importante. Depuis des années, elle était toujours le point des débats pour toutes les intifades. attentats, pour les manifestations, les mouvements et toutes les grandes leaderships en Palestine, ils ont étudié ici.
La défaite de la liste du parti du président de l'autorité palestinienne confirme l'impopularité croissante de Mahmoud Abbas.
Reportage à Ramallah de Nicolas Repère. Les Américains d'abord, c'est donc le leitmotiv de Donald Trump, un message martelé hier à Washington lors d'un discours sur ses orientations en matière de politique étrangère dans la perspective bien sûr de la prochaine présidentielle. Trump vient de remporter dans cinq États situés sur la côte est des États-Unis et les sondages lui donnent un léger avantage pour la primaire de l'Indiana qui a lieu mardi prochain. Le droit d'asile bientôt réduit à sa plus simple expression. En Autriche, les parlementaires viennent d'adopter une loi. Elle remet profondément en question les règles du jeu en la matière. Les débats parlementaires ont été mouvementés dans ce pays où l'extrême droite est arrivée en tête dimanche dernier à l'issue du premier tour de la présidentielle. Et puis la fronde des juges et des élus des grandes villes contre le pouvoir polonais. Ils soutiennent ouvertement les magistrats du tribunal constitutionnel dont les décisions, Bruno Kaden, sont contestées en ce moment par le gouvernement conservateur.
Les juges des tribunaux de toute la Pologne se rangent derrière le tribunal constitutionnel en opposition au gouvernement. L'Assemblée générale des juges de la Cour suprême de Pologne estime que les décisions du tribunal constitutionnel sont valides dès qu'elles sont formulées sans attendre leur publication au journal officiel. C'est un camouflet pour le gouvernement conservateur, d'autant plus que de nombreuses assemblées de juges en province ont d'ores et déjà pris position en faveur du tribunal constitutionnel. La fronde s'étend également à de nombreux conseils municipaux du pays. Les villes de Varsovie, Lodz, Poznan, Bydgoszcz et Słupsk ont décidé d'appliquer les décisions du tribunal correctionnel sans tenir compte du gouvernement. Le parti libéral d'opposition, Nowoczesna, a déjà obtenu 100 000 signatures de citoyens réclamant au gouvernement de publier au journal officiel les décisions du tribunal constitutionnel. Dans le même sens, trois anciens présidents de la République, Lech Walesa, Aleksander Kwasniewski et Bronisław Komorowski, ont lancé un appel à la sauvegarde de la démocratie. Une rébellion des juges qui met en colère le pouvoir. De hauts responsables de droit et justice dénoncent l'anarchie inspirée par l'ancien pouvoir libéral, une rébellion de juristes snobinards ou encore une réunion de juges copains coquins. En attendant, les décisions des tribunaux risquent de ne pas être reconnues par le gouvernement, ajoutant de la confusion dans cette crise.
La situation en Pologne inquiète toujours d'ailleurs le Conseil de l'Europe. Dans son rapport annuel publié hier, l'institution déplore l'affaiblissement de la démocratie dans ce pays. La Hongrie est également montrée du doigt.